Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonjour mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Talks on the Moon. C'est le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la lune. À l'origine, c'est l'union de deux podcasts, le yoga dans nos vies et créer, digitaliser et entreprendre. Il s'est appelé pendant un an Podcast Come on the Moon, mais j'ai eu besoin de retrouver du sens et l'appeler différemment, et grâce à vous, nous avons trouvé ce nom, Talks on the Moon. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi l'idée de s'exprimer au nom de l'agence, Come on the Moon, de vous apporter du contenu toujours plus pertinent au regard de la communication, de l'entrepreneuriat, nos conseils, les cycles de la lune, de la vie. Je m'appelle Alexandre Renaud, hôte de ce podcast, fondatrice de l'agence Come on the Moon, pour trouver votre identité, unicité, originalité, et vous conseiller à créer une communication qui vous ressemble, alignée à votre évolution. Je suis également professeure de yoga et podcasteuse, finalement slasheuse, et tous ces domaines de ma vie m'accompagnent au travers de ce podcast. Dans ce podcast, vous retrouverez plusieurs types d'épisodes, des épisodes avec des entrepreneurs, moonpreneurs, avec des profs de yoga, moon yoga, de l'équipe ou une thématique spécifique, moon talk, sur le cycle lunaire du mois, les intentions à poser en tant qu'entrepreneur et dans votre quotidien, moon cycle, et de temps en temps un épisode méditatif pour infuser tout cela en vous, pour vous et à votre rythme, des moon break. Nous vous souhaitons une belle écoute de ce podcast et espérons qu'il vous plaira.
Je vais libérer plus de temps, et dans « je vais libérer plus de temps », alors je vais vraiment développer mon projet de cœur. Parce que ça fait des années que je sens que, ok, j'ai fait le coaching pour devenir consultante, entre-temps je suis consultante, mais quand même j'aimerais bien que le coaching trouve une place dans mon activité. Je sens qu'en moi, j'ai envie d'avoir plus de ça. Donc, au moment de ce déclic à non plus deux projets mais un projet, je me prends un accompagnement entrepreneurial et je dis je vais développer mon truc mais pas toute seule, et où je vais créer petit à petit, et où cette idée d'accompagner les profils atypiques prend forme, et en même temps c'est relativement, ça coïncide relativement pour moi avec le moment où je découvre moi-même que je suis atypique.
Hello Isabelle, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Talks on the Moon, où on va parler de ton parcours entrepreneurial et puis aussi d'un sujet que j'ai abordé il n'y a pas longtemps dans le podcast, qui est l'hypersensibilité et aussi les personnes à haut potentiel, parce qu'on avait envie d'ouvrir un petit peu plus ce sujet. Je remets un peu dans le contexte notre rencontre, parce qu'on se connaît depuis pas très longtemps, et ça a été assez... fulgurant, entre guillemets, de positif en tout cas, cette rencontre. On s'est rencontrés lors du challenge organisé par Nina Ramen sur se motiver en groupe entre femmes à plus publier sur LinkedIn, etc. Et moi, j'en avais un petit peu parlé sur les réseaux, mais jusqu'au dernier moment, je procrastinais un peu à le faire, ce challenge. Et puis finalement, on s'est retrouvés dans le même groupe et ça a tout de suite matché. Et je suis du coup ravie parce que, en fait, en dehors de ce challenge, on a continué à faire grandir ce groupe. On a continué à échanger toutes les deux. Et du coup, il s'est avéré qu'on avait des sujets en commun qui ressortaient. Et notamment ce sujet sur l'hypersensibilité et les hauts potentiels. Et comme c'est ta spécialité, j'avais envie que tu viennes en parler. Puisque moi, je ne suis pas experte du sujet. Je me sens concernée, mais pas experte. Donc voilà. Du coup, longue introduction pour dire que je te souhaite la bienvenue et que je suis ravie qu'on échange sur ce sujet aujourd'hui.
Merci Alexane. Et c'est vrai que c'est un peu la magie des réseaux sociaux, c'est de faire connaissance d'une manière assez inhabituelle, où on a appris à se découvrir en lisant les posts les unes des autres, en se commentant, et puis en trouvant cet intérêt commun sur l'hypersensibilité, une petite perche comme ça sur ton épisode, et puis l'idée, mais ce serait peut-être bien qu'on fasse un truc ensemble, et puis une première visioconférence où le courant est passé, et puis maintenant cette perche que tu m'as tendue pour m'inviter dans ton podcast. Je suis super joyeuse parce que, comme je te le disais, c'était un de mes projets pour 2023 de commencer un podcast que je n'avais pas encore mis en œuvre. Et je vois vraiment ton invitation comme une manière de me proposer de réaliser sous une autre forme ce que je souhaitais pour moi, tout juste limite avant la fin de l'année. Donc, un grand merci.
C'est vrai, parce qu'on enregistre le 15 décembre. Ton épisode, si j'ai le temps de faire le montage et tout, sortira la semaine prochaine. Et du coup, j'espère qu'il plaira à nos auditeurs, mais je suis sûre que oui. Et donc, du coup, c'est marrant parce que tu m'en as parlé pendant notre première visio et tu m'as dit, c'est un de mes goals, j'aimerais bien créer mon podcast. Et donc, du coup, que tu me proposes de venir dans le tien pour ce premier, training de parler à un micro, ça te mettait en joie. En tout cas, je suis très contente parce que c'est le but aussi de ce podcast, c'est de se sentir à l'aise, c'est de parler un peu sans filtre, de manière naturelle, et c'est aussi pour ça que je choisis de pas forcément préparer avec l'invité les épisodes à l'avance, parce que j'ai vraiment envie d'incarner ce mot d'authenticité dont on parle beaucoup en ce moment, et que justement mes invités se sentent à l'aise. Donc on va commencer quand même. Et j'aimerais bien que tu nous refasses une petite présentation de toi. Alors toi, tu es en Belgique aujourd'hui, d'où ce petit accent, et on le verra quand tu vas parler de nombres, il y aura ces chiffres qu'on ne dit pas de la même manière en France, et donc que les personnes ne se sentent pas surprises. Moi, j'adore justement avoir des personnes qui viennent d'environnements différents pour nous parler de plein de sujets. Et puis la Belgique, c'est quand même voisin à la France. Donc, j'ai hâte de découvrir un peu plus ton parcours, parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas si bien que ça.
Ok. Mais donc, moi, je suis née à la campagne, dans la région liégeoise, à l'est de la Belgique, dans une famille où les quatre grands-parents étaient issus de la terre, des agriculteurs. À l'âge de 17 ans, j'ai quitté cette région pour aller faire mes études universitaires à 100 km de là, à Louvain-la-Neuve, une nouvelle université créée au milieu des champs de betteraves. Une histoire très belgo-belge après la séparation et la mésentente des Flamands et des Wallons. Et puis à l'université, j'y suis restée longtemps. J'ai adoré mes études en communication. J'ai poursuivi en faisant de la psychologie et en apprenant à enseigner avec l'agrégation, qui en Belgique n'a pas le même rayonnement qu'en France. L'agrégation, chez vous, je crois que c'est vraiment ou un Graal. Chez nous, pas nécessairement. C'est quelque chose que tu fais pour donner des cours, généralement dans l'enseignement secondaire. Et je n'ai pas exercé dans cette direction-là à ce moment-là. J'ai eu l'opportunité de travailler à l'université en fait en tant que chercheuse. Et donc du coup, les 4-5 premières années de ma vie professionnelle, j'ai fait une recherche fondamentale, un doctorat en communication, où je me suis intéressée déjà à la manière dont les gens collaboraient entre eux. Et là, en l'occurrence, c'était autour de familles avec des troubles de l'interaction parents-enfants. Donc, c'était dans le secteur de la santé mentale. et avec des personnes avec des situations assez complexes, compliquées, qui étaient prises en charge par une institution pluridisciplinaire, mais ça ne suffisait pas encore. Et donc, du coup, ces professionnels avaient besoin de collaborer de manière intense avec d'autres professionnels du secteur, parfois plus judiciaire, parfois plus de l'éducation, la médiation d'aide médicale. Enfin, il y avait vraiment plein d'approches différentes. Et c'est ce qui, moi, m'intéressait là-dedans, c'était de comprendre comment chaque professionnel, chaque savoir trouvait sa place pour essayer d'aider au mieux ces familles dans des grandes difficultés. Et donc, au bout de ces 5 ans, j'ai réalisé qu'en fait, je ne me sentais pas si super à l'aise dans le fait de continuer dans une carrière académique, outre le fait que c'était assez compliqué, parce que c'était un travail assez solitaire. Et à ce moment-là, je ne le savais pas encore tellement de moi, mais je me sentais mieux quand je pouvais travailler avec d'autres. Et j'avais mis en place des collaborations, j'avais déjà à ce moment-là un groupe de pairs qui étaient des chercheurs, doctorants, où on pouvait être authentique, échanger sur les challenges qu'on rencontrait dans nos recherches les uns et les autres. Mais donc du coup, assez vite ce constat de dire oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment un truc pour moi, peut-être ça serait mieux autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin, parce que j'ai testé et expérimenté beaucoup de domaines professionnels différents. Ce qui, me suis-je rendu compte beaucoup d'années plus tard, était assez classique chez les profils atypiques comme moi. Mais donc, après l'université, j'explore le monde associatif. Comme j'étais dans le secteur de la santé mentale et des professionnels, je trouve une opportunité de continuer à travailler sur ma thématique du travail en réseau dans en Belgique, on appelle ça une association sans but lucratif, une ASBL, qui fédère plein de professionnels différents de la santé mentale. Et là, je continue à travailler sur le réseau, mais beaucoup plus dans l'interaction avec les gens, en construisant avec eux, ce qui me plaît beaucoup par rapport à la recherche fondamentale où c'est plus solitaire. Et avec aussi des conférences, organiser des événements, des groupes de travail, etc. Et je fais ça pendant 3 ans, mais avec aussi des hic dans les relations avec mes collègues, et en l'occurrence ma responsable. Je me rappelle, on avait un entretien de fin d'année, et je lui dis, mais tu sais, moi j'aimerais évoluer dans ma carrière. Et puis là, elle me dit, mais tu sais, entre ta position et la mienne, je ne vois pas d'intermédiaire. Et là, moi, je me dis, ah, oups, la gaffe, quoi. Moi, je lui dis, j'ai envie de grandir, me développer. Et elle, est-ce qu'elle comprend que j'ai envie de prendre sa place, ce qui n'était pas du tout mon intention. Mais voilà, mais mon parcours est émaillé de ce genre de choses-là aussi. Donc, je quitte le secteur associatif, je reprends mon bâton et je me dis, peut-être, ça serait mieux dans une plus grande organisation où il y a plus de possibilités d'évoluer, faire autre chose. Et petit à petit, j'en avais un peu marre aussi de ma thématique de recherche. À ce moment-là, ça fait déjà 9 ans que je travaille sur la question du réseau. 5 ans de thèse, plus 3-4 ans, et je commence à être à saturation. Et je me dis, oui, ça me plaît bien l'intervention dans les organisations, aller plus du côté de l'action. J'avais déjà fait un peu de recherche-action, donc je me dis, allons à fond dans l'action. Et là, je rejoins une mutualité, qui sont aussi pas tout à fait organisées de la même manière en Belgique et en France, parce que en Belgique, les mutuelles font une partie du travail qui est exécuté par l'État chez vous, c'est-à-dire exécuter les remboursements des associations, des attestations de soins quand tu vas chez le médecin, ou payer les revenus pour les personnes en incapacité de travail due à une maladie. Donc il y a ça, plus tout le volet complémentaire qui là est le même que les mutuelles en France. Et donc là, je me retrouve dans un terrain de jeu immense, très vaste. Il y a 5500 personnes, 19 mutualités régionales réparties partout en Flandre, en Wallonie, et une grosse complexité organisationnelle, parce que moi je suis rattachée au secrétariat national, mais qui n'est pas un siège central qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Les entités régionales ont une grande autonomie. Et je commence en travaillant au top niveau de l'organisation, parce que j'aide les directeurs de toutes les mutualités du pays à faire une stratégie commune et une stratégie nationale. Donc finalement, mes collègues, dès le départ, c'est le président, le comité de direction nationale et les directeurs des différentes mutualités. Et là, j'apprends, je découvre la stratégie. En fait, j'y connaissais rien. Je tombe de là-dedans et j'apprends un peu, j'expérimente. Et puis, j'apprends aussi plein d'autres métiers classiques de l'organisation, comme la gestion de projet avec les méthodologies de gestion de projet, l'amélioration des processus où on essaye de détecter les inefficiences, d'améliorer. Et c'est là que je rencontre l'accompagnement du changement pour la première fois. Et là, je me dis, waouh! Autant gestion de projet et processus, j'apprends et c'est ouais, mais c'est pas mal. Mais avec la gestion du changement, là, ça vibre et je me dis waouh, il y a un truc cool là. Je vais pouvoir amener tout mon bagage et mon intérêt pour l'humain, pour pouvoir voir comment les gens peuvent évoluer dans des grandes transformations. Et je plonge dans un projet de digitalisation des attestations de soins et je découvre un petit peu ça. Avec aussi toujours des insatisfactions et les deux, parce qu'entre-temps, j'ai ma thèse de doctorat, je suis docteur, mais je n'enseigne pas à l'université. J'ai aussi une charge de cours dans une haute école où je donne cours sur ma problématique de travail en réseau et communication. Donc là, j'ai une phase de transmission. Mais pendant longtemps, oui, je pense dès que j'ai quitté l'université, je me suis mis sur les épaules une sorte de pression de « comme j'étais docteur, ben, je devais faire plus ». Puis je crois qu'il y avait aussi ce grand besoin de reconnaissance. Et donc, je donne des cours en plus, j'ai des activités complémentaires où je fais des supervisions, enfin, différents projets comme ça en plus. Et donc, quand je suis dans cette mutualité, il y a aussi toutes ces questions de reconnaissance parce qu'à un moment, on fusionne avec une partie de l'équipe informatique. Et là, pour le même job, les gens ne sont pas du tout dans les mêmes conditions de travail. C'est-à-dire que moi, je fais du change management et j'ai des collègues qui viennent de l'informatique et qui font du change management. Et elles ont des salaires plus élevés, elles ont une voiture de société, des trucs que moi, je trouve complètement injustes, en fait, et où je me suis toujours dit, bon, ça fait déjà plus de 10 ans que je travaille dans le non-marchand, je me suis toujours dit, l'argent n'est pas un moteur en soi, mais là, quand même, ça vient me chipoter sur la valeur de l'injustice, quoi. Quand je vois deux collègues qui se chamaillent entre elles parce qu'elles se sont accrochées avec leur voiture de société sur le parking, et moi, je fais, oui, mais bon, moi, j'ai pas de voiture de société, les filles, quoi, arrêtez. Donc là, il y a des trucs qui vont pas tout à fait. Je sens que j'ai envie aussi d'évoluer, de grandir. Je vois mes collègues, parce que ce département, ça s'appelait département organisation, on disait c'est un tremplin vers d'autres fonctions. Je vois des collègues qui sont passés, qui évoluent vers des postes de direction et tout. Moi, je me pose la question, je me dis est-ce pour moi, pas pour moi. Parfois, je fais des assessments pour des postes. Finalement, ça se met pas, mais j'ai toujours cette envie de grandir en fait. Et là, je me dis, écoute, si pour le moment je ne peux pas bouger, je me dis, c'est pas grave, je vais trouver autrement une manière de grandir. Et je trouve cette possibilité de me former au coaching. Parce que j'avais rencontré un formateur et un consultant qui avait une position qui me faisait assez envie. Et je lui avais demandé, mais tiens, au fond, comment est-ce que tu as fait pour en parvenir là-bas? Et lui m'avait dit, mais tu sais, j'ai suivi cette formation coaching. Je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Et puis, ça peut aider pour devenir consultant, en fait. Et je me rends compte au fur et à mesure que de ce parcours de formation de coaching que je fais en parallèle de mon boulot, je me rends compte à la fin du parcours que tous ceux qui sont là pour devenir coach, mais qu'en fait, moi, ce n'est pas mon ambition à ce moment-là de devenir coach. C'est que je fais le coaching pour devenir consultant externe. J'étais comme consultante interne et je me suis pris les pieds dans le tapis plein de fois de toutes les limites de cette position, d'être à la fois la collègue qui conseille les directeurs. Et là, à ce moment-là, je rêve de devenir consultante externe. Et donc, à 40 ans, je suis enceinte de ma fille, qui est mon deuxième enfant. Et après 20 ans de carrière dans le non-marchand, je rejoins une petite société de conseil enceinte. Et donc, du coup, là, c'est un peu... moi qui avais toujours hésité déjà quand je faisais mes études entre est-ce que je vais plutôt faire la communication d'organisation corporate ou bien le truc plus associatif. Finalement, j'avais pris l'associatif. J'y suis restée pendant une bonne partie de ma carrière. Il y a 40 ans, je fais le switch. Je deviens consultante et dans cette boîte, en fait, je trouve que j'ai des collègues formidables, je m'amuse beaucoup, je suis très honorée finalement au début de faire partie de ça et je me prends à fond dans le jeu du sentiment d'appartenance et je me fais driver comme ça. Il y a deux choses à ce moment-là dans ma vie. Il y a ma famille et mon travail. Et puis, il n'y a pas place pour autre chose, en fait. Les amis, etc., le sport, tout ça est très réduit parce que j'ai un enfant petit et puis un deuxième qui arrive. Et donc, il y a cette phase d'émissions intéressantes, d'émissions parfois moins intéressantes. Je me rappelle que quand je suis revenue de congé de maternité, on me propose une mission de retour dans le secteur des mutualités, plus la même, une concurrente, mais moi, j'en ai marre parce que j'ai fait plein d'années dans la mutualité, donc ça ne me botte pas trop, et comme chef de projet sur un truc informatique. Et à ce moment-là, en fait, j'ose pas dire non, j'ose pas m'écouter. Je sens que j'ai pas trop le choix. C'est ce qui est attendu de moi. Je fais l'entretien quand je suis encore en congé de maternité. Les gens disent « on te veut ». Et moi, on ne me demande pas trop si je veux y aller. Donc, j'y vais. Puis, en fait, évidemment, ça ne se passe pas trop bien. Et finalement, c'est une des missions où je me fais éjecter, en fait, où les gens disent un peu dans mon dos. Ça, c'est quelque chose aussi dans mon parcours où c'est vraiment important pour moi, c'est que les choses puissent être nommées. Parfois là on convient pas ou il y a des choses qui se passent, mais quand les choses ne sont pas nommées, pour moi c'est vraiment dur d'avancer là-dedans. Et donc je suis dans cette petite société, mais donc il y a des choses bien et puis il commence à y avoir des choses moins bien, par exemple ça, et je fais les feedbacks à mes partenaires et je travaille sur moi en coaching, et puis je dis, mais tu sais, la prochaine fois, est-ce que tu pourrais m'en parler dès que tu sais, pas laisser traîner les choses, parce qu'en fait, moi, je sentais qu'il y avait des choses autour de moi qui n'allaient pas, mais en fait, comme on ne me le disait pas, je me commençais à me relever la nuit pour faire des états d'avancement du projet, je sentais qu'il y avait un truc, mais je ne savais pas quoi. Et puis, on avance, puis cette société se fait racheter par une grosse, grosse société active dans le domaine de la finance. Et donc, moi, je me retrouve consultante dans le cinquième après les Big Four, quoi. Et ce qui était vraiment pas du tout... Moi, j'aurais jamais postulé pour ce genre d'organisation, en fait. Ils avaient déjà essayé de m'attirer quand j'avais 20 ans et que je commençais à travailler dans la recherche, et ça ne me parlait pas. Et quand j'avais fait mon choix de cabinet de consultance, j'avais expressément choisi quelque chose de petit, humain, familial. Bon, je me dis, j'y suis, il y a peut-être des choses bonnes à prendre, on va voir, restons ouverts. Et je fais aussi des chouettes missions au début de ce rachat et de cette intégration, notamment pour les fiscalistes qui sont en train de revoir leur métier et tout. Tu me dis, si ça prend trop longtemps.
T'en fais pas. Si tu as besoin de l'exprimer pour raconter après où tu en es aujourd'hui, il n'y a pas de problème.
Et donc, je fais des chouettes missions aussi sur l'évolution du métier, du futur. Et puis arrive la crise du Covid. On se retrouve tous à la maison. L'intégration n'est pas encore tout à fait réalisée. Et là, on n'a pas d'équipe. On est censé être une équipe à 55. Et donc, du coup, il n'y a plus de structure en fait autour. Avec des collègues, on essaye de mettre en place des petits groupes de soutien. On avait appelé ça les groupes de proximité. Un moment, ça va, c'est accueilli. Puis un moment, on dit non, il n'y a pas l'espace pour ça, il va falloir arrêter. Et là, pour moi, ça commence à être de plus en plus flagrant que je ne suis pas en alignement avec les valeurs de l'organisation. En fait, je sens très fort que nous, les consultants, on est des machines à facturer, des machines qui galèrent un peu en période de crise Covid parce que c'est le secteur d'activité qui souffre le plus. Avant la crise, c'était la vache à lait. Après la crise, c'est le secteur qui souffre le plus. Et là, c'est le début du désalignement, en fait. En plus, on a les enfants à la maison qui sont tout petits. Ma fille devait rentrer en maternelle. Mon fils devait rentrer en première année. Leur autonomie est quasi inexistante. Quand ils arrivent à travailler 20 minutes, une demi-heure tout seul, on est content. Et en même temps, on a cette injonction à produire et pas beaucoup de compréhension, quoi. Moi, je me rappelle les collègues qui disent « Ah, moi, j'ai la chance d'avoir des grands-enfants ». Et moi, je me dis, mais et quoi ? Moi, j'ai la malchance d'avoir des petits-enfants, c'est pas OK. et donc, j'avance petit à petit, le projet émerge de dire, OK, à ce moment-là, j'ai déjà 42 ans, je pense. J'ai cherché ma place dans plein d'institutions différentes. Je trouve que je ne l'ai toujours pas trouvée. Et je me dis, il va falloir peut-être la créer, en fait, Isa, ta place. Et donc, l'idée de créer ma société, de faire du travail en freelance commence à émerger, mais je me cherche des partenariats. Et je cherche pour avoir quelque chose pour sauter de l'un à l'autre sans trou. Et en fait, je ne trouve pas tout de suite. Donc, je crée ma société au mois de février. En 2021, et en fait, on sent bien que ça a changé dans l'organisation. On me dit, t'es plus senior, donc on attend de toi aussi que tu fasses du commercial, que t'ailles chercher les clients, ce qui n'était pas du tout dans le contrat à l'engagement. Et donc, du coup, le divorce est de plus en plus palpable, quoi. Et donc, en juillet de cette année-là, on va vers une rupture de commun accord, mais en fait, c'est l'entreprise qui prend la décision aussi de me licencier. Ça arrive sur une rupture où on se met d'accord sur les conditions. Et ça arrive plusieurs fois dans mon parcours. En fait, pour moi, c'est que c'est pas toujours facile d'arriver à la décision.
De dire non.
Et puis, c'est l'environnement qui prend les choses en main. Et donc, du coup, quelques semaines plus tard, ben là, je trouve une première mission en accompagnement du changement grâce à une ancienne collègue. Et finalement, cette transition est assez fluide. Je commence dans un secteur des utilities, comme on dit. J'avais déjà travaillé dans le transport du gaz. Ben là, je retourne un peu dans le secteur transport du gaz sur une mission d'accompagnement du changement autour de transformation informatique. Et je vais rester assez longtemps quand même, presque deux ans dans cette mission. Et petit à petit, je crée aussi de la place.
Et surtout, comment ça s'est implémenté ? Tu vois, tu t'es lancé à ton compte du coup officiellement en juillet. Mmh. Finalement, les planètes s'alignent, on dirait. Et donc, tu trouves tout de suite cette mission alors que tu en doutais au départ, etc. Ce que j'aimerais aussi, sur lequel j'aimerais que tu reviennes, c'est aussi cette notion de ne pas savoir dire non ou pas avoir du mal à dire stop, parce que je me sens aussi un petit peu concernée. Donc, et puis, je pense que nos auditeurs aussi, c'est parfois difficile de se dire, en fait, je suis dans cette pseudo-sécurité, je sens que ce n'est pas aligné, mais d'un autre côté, je ne peux pas me permettre de dire non ou stop et je vais attendre de voir ce que eux ils en pensent. Et du coup, c'est quand eux prennent la décision que ça s'arrête que finalement, tu te dis, effectivement, c'était la meilleure chose à faire, quoi. Et du coup, c'est là que tu arrives à prendre ce déclic et dire, ça y est, je me lance officiellement à mon compte.
Mais oui, j'ai pas l'impression d'être la meilleure personne pour parler de ça. Enfin, en même temps, je l'ai vécu, mais je sais pas si j'ai des leçons à donner pour ça. Ce que je peux faire, c'est expliquer comment ça s'est passé pour moi. C'est que c'est vrai qu'il y a des micro-ruptures comme ça qui se répètent plusieurs fois. Je peux parler peut-être aussi du fait que quand je démarre cette mission, je tire deux projets en même temps. Et puis, après un an, et on est à deux, en fait. À deux, mais d'une manière, dans une répartition non égale. Avec cette ancienne collègue, elle travaille un jour semaine et moi, je fais quatre jours semaine. Donc, on est à deux pour gérer deux projets, mais ce n'est pas elle un projet, moi l'autre, quoi. Il y a un majeur, mineur. Okay. Et quand on se rend compte qu'on a besoin de plus de ressources, arrive une troisième personne sur la mission. Et là, pour moi, c'est un moment de déclic aussi parce que la répartition du travail, on essaye de faire ça de manière organique, puis finalement, on n'y arrive pas tout à fait. Et puis, le client demande une personne, un projet. Et là, pour moi, j'ai l'impression qu'on me retire un de mes projets. Et c'est dur à vivre pour moi. Dans le processus, c'est pas très concerté, pas comme je voudrais, enfin, toutes sortes de trucs. Ce qui fait que ça me fait dire, OK, c'est pas grave, je garde qu'un projet, celui qui me plaît le plus des deux, ça c'est bien. Je vais libérer plus de temps. Et dans « je vais libérer plus de temps », alors je vais vraiment développer mon projet de cœur. Parce que ça fait des années que je sens que, OK, j'ai fait le coaching pour devenir consultante. Entre-temps, je suis consultante. Mais quand même, j'aimerais bien que le coaching trouve une place dans mon activité. Je trouve des petits des petites zones où je peux accompagner certains managers à prendre plus leur place à la gestion d'un groupe, par exemple dans la sidérurgie, ou bien des missions dans les télécoms autour d'une dynamique d'équipe qui n'était pas très positive et où je coach le manager et son équipe. Mais ça reste des petites zones et je sens qu'en moi, j'ai envie d'avoir plus de ça. Donc, au moment de ce déclic à non plus deux projets, mais un projet, je me prends un accompagnement entrepreneurial et je dis, je vais développer mon truc, mais pas toute seule. Et donc, je rentre dans un programme de groupe là, avec J'entreprends ma vie et où je vais créer petit à petit et où cette idée d'accompagner les profils atypiques prend forme et en même temps, c'est relativement, ça coïncide relativement pour moi avec le moment où je découvre moi-même que je suis atypique et c'est rentré par je suis hypersensible et puis oui peut-être ce serait peut-être au potentiel mais non quand même c'est pas possible et puis je vais peut-être faire un test, non je vais pas faire de test, enfin c'est tout un cheminement en fait pour moi tout ça et qui permet petit à petit de donner forme à ce projet qui est 100% le mien en fait. Et je fais quand même une grande distinction entre prester pour compte d'autrui et c'est comme un deuxième lancement en fait, je trouve que je suis en train de vivre maintenant, qui est de mettre à jour qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'aller moi apporter au monde et d'aller rencontrer son public et trouver ses clients à qui on va offrir ce qu'on a de plus beau à partager quoi.
Et est-ce que du coup tu peux nous expliquer comment tu as trouvé que tu avais envie d'accompagner justement les profils atypiques plutôt qu'un autre sujet, tu vois, parce que tu faisais de l'accompagnement au changement, ça n'a pas forcément de lien direct avec le profil atypique. Comment est-ce que tu as trouvé que tu as eu envie d'aller plus loin dans cette démarche d'accompagner l'humain mais sur ce sujet-là, quoi.
Oui, ben, je pense que là, c'est vraiment fort lié à ma propre histoire, à moi. Quand je regarde dans le rétroviseur et que je raconte mon parcours comme tu m'invites à le faire maintenant, je trouve que c'est un peu un parcours de chercher sa place au travail, en fait. J'avais une fois trouvé un bouquin, ça s'appelait Trouver sa place au travail, et je me disais, ouais, c'est génial, c'est ça que je veux. Et d'avoir essayé de la trouver dans un domaine, et puis, ah non, c'est pas ça, puis dans un autre, puis dans un autre, puis dans un autre. Et je me dis, il y a quelque chose de vain, en fait, à un moment là-dedans. Et ça, c'est mon histoire à moi. Et c'est mon histoire à moi de quelqu'un qui avance dans la vie, un peu sans vraiment avoir le mode d'emploi ou le mode de fonctionnement, parce que c'est quand même assez tard, quoi, 42 ou 43 ans pour découvrir qu'on a un certain mode de fonctionnement. Et moi, j'étais en colère, en fait. Je me dis, mais pourquoi on ne m'a pas expliqué ça avant ? J'étais en colère contre ma famille, mes parents. Et c'est les phases. Tu vois, tu dis, il n'y a pas nécessairement de lien. Pour moi, c'est le lien que je vois entre les deux activités. L'accompagnement du changement, il y a toutes ces phases qu'on rencontre aussi. Le déni, la colère, la tristesse. Et puis, à un moment, on évolue vers l'acceptation, c'est la même chose aussi au niveau individuel. Et donc, du coup, dans cette forme de souffrance, enfin, c'est peut-être un grand mot, mais c'était quand même une forme de souffrance pour moi de ne pas trouver ma place au travail. Moi, il n'y a pas un seul job que j'ai exercé dans ma vie qui ne m'a pas fait pleurer. Je pensais que c'était pareil pour tout le monde. Et puis après, je me rends compte, non, je pense que tout le monde ne pleure pas nécessairement à cause du travail, en fait. Mais c'est plein de choses que je prends les choses très à cœur, que je suis très impliquée, que je suis très susceptible, enfin, et tout un cocktail comme ça qui fait que ça m'a donné envie d'aider les profils atypiques à vraiment mieux se connaître, mieux s'accepter pour pouvoir prendre leur place, rayonner et contribuer, parce que quand on est bien dans sa peau, bien dans son axe, c'est là qu'on peut dégager un petit peu sa puissance et vraiment aider les autres. Et je sais pas pourquoi, ça me parlait vachement en fait. Je me suis dit, j'ai pas du tout envie de prendre la parole, de me montrer, mais ça pour moi c'est une cause tellement importante que je suis prête à me dépasser et à faire des sorties de zone de confort, un peu pour que ça serve à d'autres, en fait. Si moi, je peux aider des gens à trouver leur place au travail en moins que 22 ans, comme moi, je pense que j'ai gagné quelque chose, en fait.
Je rigole depuis tout à l'heure, enfin, je souris parce que tout ce que tu dis, je confirme. Alors moi, j'ai pas pleuré dans tous mes jobs, quoique je réfléchis un petit peu. Non, j'ai pas pleuré dans tous mes jobs, mais effectivement, je me rends compte de ce que tu expliquais tout à l'heure, que c'est vrai que parfois, en tant que profil atypique, et notamment on parlera plus de l'hypersensibilité tout à l'heure, on vit des choses que les autres ne comprennent pas forcément, en fait. Ceux qui ne le sont pas, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. Et plus tard, en ayant accepté aussi qui on est réellement, j'ai l'impression que finalement nos proches comprennent. Donc au début, on est un peu dans le truc, tout le monde est contre moi, personne ne me comprend, etc. Et puis finalement, en acceptant aussi qui on est, en se dévoilant et en s'incarnant vraiment, on se rend compte que nos proches qui ne sont pas forcément profils atypiques ou hypersensibles, etc., en fait, nous soutiennent réellement. Ils ne sont pas contre nous, quoi. Donc voilà, c'est à tout ça que ça me fait penser, ce que tu expliques. Mais je trouve ça hyper chouette de se dire... Après, je pense qu'il n'y a pas d'âge... pour trouver et sa voix, etc. Enfin, j'étais en train de noter justement ce que tu viens de dire et je pense que ce sera vraiment le titre de cet épisode, trouver sa place au travail en tant que profil atypique. Peut-être qu'on le remaniera derrière, mais en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour trouver sa place. L'essentiel, c'est déjà de prendre conscience. J'en parlais avec une de mes élèves hier qui, elle, tu vois, sort d'études et elle commence à prendre conscience de certaines choses. Et déjà, à partir du moment où on commence à faire quelques pas, c'est qu'on en a conscience. Après, le temps que ça prend, bah, c'est individuel. Ça, c'est propre à chacun, quoi.
Oui.
Comment est-ce que, du coup, toi, après, donc tu as fait cet accompagnement pour justement créer ton offre, etc. Comment est-ce que ça s'est matérialisé derrière?
Comment ça s'est matérialisé? Qu'est-ce que tu veux dire vraiment? Quelles ont été les étapes?
Moi,
ça a été quand même un lent processus de gestation, je dirais, parce que pendant l'accompagnement, okay. En fait, j'apprends théoriquement les différentes trucs et astuces du web marketing, mais en fait, je suis toujours en train de... Ça m'a permis, moi, d'identifier ma cible. Ah oui, ok, je veux m'adresser au profil atypique. À ce moment-là, je pense même encore que ça reste une question. Est-ce que je vais m'adresser que aux femmes hypersensibles ou au potentiel? Enfin, donc, c'est tout un petit peu ce cadrage-là. Entre-temps, ça a évolué parce que je me rends compte que je parle aussi aux hommes d'une manière ou d'une autre et que la question du genre n'est pas vraiment déterminante pour dire je t'accompagne ou pas. Il y a ce côté de vécu commun. À part pour les cercles de femmes atypiques, et ça, j'aime quand même bien garder les femmes aussi, parce qu'il y a un vécu différent. Mais donc, ça m'aide de me former, et je clarifie un petit peu mon offre. Et puis, je crois qu'il y a un moment clé, c'est qu'à la fin de mon accompagnement de groupe, ils nous invitent à tester des offres au sein de l'écolieu, le groupe, l'écolieu digital dans lequel on est, qui s'appelle Le Village. Et là, je fais mon premier... workshop, je l'appelle atypique codev parce que le co-développement, c'est une technique de coaching de groupe que j'aime beaucoup utiliser. Et donc, j'expérimente, je reçois le feedback et sur base de ça, je crée aussi mes premiers cercles de femmes atypiques au cours de cette année, en début d'année. Là, c'est en présentiel à Bruxelles. Et puis, j'attire quelques femmes, je reçois leur feedback. J'ai quelques coachings individuels qui se mettent en place, plutôt via mon réseau proche, des amis, etc. Mais comme quand on travaille avec les amis, on déconseille souvent, ça ne se passe pas toujours bien non plus, en fait. Donc, je fais mes armes. Et puis, je dirais que là, depuis la fin de ma mission de freelancing, depuis le mois de juin, en fait, ça m'a vraiment mis le coup de pied aux fesses de me dire « maintenant, j'ai plus seulement 2 jours par semaine en plus de, je sais pas, faire des trucs pour la famille, les enfants, pour me consacrer à mon activité. J'y vais vraiment. Il y a eu aussi cette démarche de rendre les choses plus visibles au cours de cette année avec… d'abord un challenge de visibilité sur Instagram que moi, je n'utilisais pas du tout. Donc, ça a été mon premier terrain d'expérimentation en mars de cette année. Je pars d'un compte avec passif dormant avec 20 followers et puis je dois faire un peu tout, un coaching d'un mois, créer mon univers, faire des lives, j'ai la peur au ventre, même au début poster une photo de moi en disant qui je suis, ce que je fais, c'est horrible. Donc je m'entraîne en fait là-dedans, j'investis beaucoup de temps et d'énergie avec pas nécessairement beaucoup de retours en fait là-bas et puis... comme je produis du contenu, ben je me dis certains contenus, j'ose aussi le publier sur mon réseau LinkedIn qui est plus professionnel, mais où là, je suis au début pas très à l'aise parce qu'il y a tous les gens que je connais de mes vies d'avant qui voient ce que je fais. Et petit à petit, ben, je dépasse ça et je me rends compte que quand je produis le même contenu et je le mets d'un côté ou de l'autre, j'ai pas le même effet. En fait, et via les relais de personnes qui m'ont formé, par exemple sur le réseau, ou bien d'auteurs que je trouve inspirants, je commence à trouver aussi des gens que je connais ni d'Adam ni d'Ève qui s'intéressent à moi, qui viennent à moi et qui débouchent sur des premiers coachings aussi. Jusqu'au moment où nous, on se rend compte avec ce challenge de visibilité sur LinkedIn et où on est incité à publier pendant 5 jours d'affilée avec des trames particulières. Et pour moi, là, c'est quand même une forme de révélation parce qu'il y a un de mes posts que je fais avec la structure assez simple de les pièges des hypersensibles au travail, c'est 2, et je cite 4-5 trucs, et puis je propose des pistes de solutions. Et ce post ben, me ramène deux prospects qui entre-temps sont devenus des clients. Enfin, il y en a un, c'est déjà signé, l'autre, c'est en cours d'eux. Et là, je me dis, ah, waouh, c'est quand même vachement puissant, les réseaux. Enfin, c'est comme si on te l'a dit, on te l'a raconté, tu le sais dans la théorie, mais en fait, quand tu le vis pour toi, comment tu vois, comment ça fait évoluer les choses en termes d'abonnés, qu'il y a des gens qui viennent à toi. Et le truc le plus touchant, c'est ce monsieur qui m'a dit, écoutez, j'ai fait un truc fou, mais votre poste m'a tellement parlé que je viens de me faire licencier, j'ai un budget d'outplacement et j'ai négocié de pouvoir utiliser une partie du budget d'outplacement pour travailler avec vous. Mais alors qu'on ne s'est encore jamais parlé. Il me dit ça dans le premier entretien. Je suis là, waouh ! Là, je me dis, il y a un truc qui se passe en fait. Il y a moyen
c'est beau, ouais.
de toucher les gens et je me dis, ah waouh, moi je peux faire ça. Et là maintenant je suis dans la phase de aussi rendre visible oui une offre en ligne, enfin oui voilà, je dirais que tout se fait un petit peu par étapes comme ça, je sais pas comment on fait mais j'ai peur puis j'y vais quand même. C'est comme pour toi avec ton le podcast aujourd'hui, j'ai envie, j'ai peur, je sais pas trop, mais on va le faire.
Oui, mais je parle beaucoup de ce principe-là. De toute façon, en fait, si tu n'oses pas, tu auras des regrets. Donc, autant oser et puis tu verras le résultat. Qu'il soit positif ou moins positif, c'est pas négatif, c'est pas un échec, ce sera vraiment un apprentissage. Ça te permettra d'évoluer, ça te permettra d'ajuster aussi ta proposition et de bah, peut-être mieux cibler, etc. Est-ce que tu peux juste revenir sur la partie profil atypique, parce que je me rends compte qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais qu'on ne l'a pas redéfini pour nos auditeurs. Et du coup, après, j'aimerais bien qu'on parle de... Ça fait déjà 40 minutes qu'on parle, mais qu'on parle un petit peu de cet aspect hypersensibilité et qu'on fasse en direct ce test ensemble, comme on s'est dit en off, pour que chacun des auditeurs puisse aussi le faire avec nous et voir s'ils ont... s'ils sont profils atypiques ou hypersensibles.
Alors, c'est vrai que c'est toujours compliqué la question des étiquettes et des mots. Moi, j'ai choisi de parler de profil atypique parce que je trouve que dans toutes les étiquettes qui existent, c'est une de celles qui me paraît les moins stigmatisantes. Mais après, on a tous nos ressentis différents. Il y en a qui parlent de profil hyper, comme Katia Sonheim. Il y a Hélène Aron, elle a amené, comme tu le disais dans ton épisode sur l'hypersensibilité, cette notion de highly sensitive person, les hypersensibles. Il y a aussi les gens qui parlent plutôt du haut potentiel intellectuel ou bien de la douance, les surdoués, les HP, qui sont deux concepts différents en fait. Il y en a qui parlent plutôt de neurodiversité, et là, quand on inclut la neurodiversité, on va aussi parler de TDA, TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, voire même de troubles du spectre de l'autisme et de toutes les problématiques 10. Dyslexique pour ceux pour qui c'est compliqué la lecture, dyscalculique quand c'est avec les chiffres et dyspraxique quand c'est plus par rapport au mouvement dans l'environnement. Et pour donner quelques chiffres, je ne sais plus si tu l'avais donné dans ton épisode, mais les personnes hypersensibles, ça représente environ une personne sur cinq, on dit 15 à 20% de la population, et ça se caractérise par le truc le plus évident que tout le monde a en tête quand on parle d'hypersensible, c'est comme hyper émotif. Quelqu'un qui a une haute intensité dans le ressenti de ses émotions, qui aussi les manifeste, mais ça peut être aussi une fréquence ou bien une vitesse rapide de passer d'une émotion, par exemple joyeuse, à une émotion triste. Ce qui fait que parfois, il y a des diagnostics erronés et où on dit ces gens, ils sont cyclotimiques ou maniaco-dépressifs, qui sont deux choses différentes parce que là, on est vraiment dans le registre de la maladie. Mais il n'y a pas que ça dans l'hypersensibilité pour l'identifier. Il y a aussi cette pensée en arborescence, le fait qu'une idée, si tu me dis micro, ben peut-être que la population moyenne, elle va penser à 3-4 idées. Et puis, ben, chez les personnes qui ont la pensée en arborescence, ça va partir dans 15 branches différentes en connectant des idées que les autres trouvent qui n'ont rien à voir, quoi. Et c'est pour ça qu'on les perd.
Oui.
Ça, tu le reconnais.
Je rigole encore, mais on parle aussi du syndrome de l'objet brillant. Alors, je ne sais pas si je l'utilise bien, ce terme, mais moi, on me l'avait défini comme ayant effectivement un peu 1000 idées à la seconde, quoi. Mais finalement, concrètement, comment ça s'implémente, c'est aussi essayer de les concrétiser. Alors qu'il y a plein de gens, tu vas leur donner des idées ou une thématique, ils vont te donner quelques idées, mais jamais ils vont oser passer au stade d'implémentation après l'idéation finalement. Donc j'ai l'impression aussi que ces profils à haut potentiel, atypiques, hypersensibles, sont plus dans ok, j'ai une idée, ok, j'ai 1000 idées, mais je vais tout faire pour mettre en œuvre, en fait, ça, et peu importe le temps que ça prendra.
Mais c'est souvent un challenge parce que quand tu as 1000 idées à la seconde et qu'à chaque fois, tu découvres en effet un nouveau objet brillant qui peut te détourner de ce que tu étais en train d'essayer de faire. Ouais. Et donc, c'est un challenge pour moi et pour les autres entrepreneurs qui fonctionnent comme moi et qui sont autour de moi, c'est d'arriver à canaliser ça, puis souvent… Ouais. Il y en a qui sont aussi réticents au cadre et au planning. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours du mal. Je cherche mon modus operandi aussi pour des publications sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est plus efficace de faire un calendrier éditorial, mais j'ai fait plusieurs tentatives et j'y arrive coup-ci, coup-ça. En fait, ça marche pas super pour moi parce que il y a cette réticence à rentrer dans les cases. Et donc, c'est un vrai challenge. Ouais. D'arriver à mettre en place les étapes les unes après les autres pour concrétiser les choses.
Ouais. C'est marrant que tu dises ça parce que mon conjoint, s'il nous entend, là, il écoute pas mon podcast, mais s'il nous entend, il me dira « bah oui, t'es pas organisée ». Et ça peut être vu de la mauvaise manière pour nos clients qu'on accompagne, etc., de se dire « en fait, t'arrives pas à faire un calendrier, mais en même temps, c'est ton métier. Enfin, moi, c'est mon métier de proposer un accompagnement en communication. Donc forcément, à mes clients, je vais leur proposer une méthode d'organisation. Mais il y a certains moments… où j'accompagne certains clients qui sont des profils aussi atypiques et pour lesquels cette méthodologie-là ne fonctionne pas pour eux. Et donc, on est obligé de trouver autre chose qui fonctionne. Mmh. Et même parfois pour moi, il y a des moments, comme tu dis, où je n'ai pas envie de suivre un calendrier, je n'ai pas envie de suivre un code défini ou de préparer 6 mois à l'avance, etc. Et donc, il faut trouver en fait ce qui fonctionne pour chaque personne et surtout pour soi. Et puis ça peut évoluer, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, une semaine ça va fonctionner de faire ce calendrier et puis un mois plus tard ça va plus du tout fonctionner parce que nous aussi on évolue, l'humain évolue constamment et donc du coup il faut constamment réfléchir à ce qui fonctionne pour nous par rapport à notre évolution.
Oui, finalement. Je suis tout à fait d'accord. Et pour ça, c'est important, la connaissance de soi, parce qu'on a beau dire les atypiques, les hypersensibles, les hauts potentiels, mais à côté, on a chacun notre personnalité, on a chacun notre histoire qui va donner une couleur différente. Et peut-être que ce qui est vrai pour moi n'est pas du tout vrai pour une autre personne haut potentiel, parce que tout ça est différent. Mais j'ai trouvé, par exemple, un truc inspirant. C'était une intervenante dans le congrès d'Ouance. Elle disait, moi, je sais que j'ai l'énergie, je travaille beaucoup mieux à la dernière minute. Et moi, c'est mon cas aussi. Je vais carburer et produire. Mais elle dit, mais j'ai organisé structurellement dans ma semaine et dans mon agenda, en début de journée, j'ai ma demi-heure pour finir tout. Et comme j'ai la demi-heure pour finir tous les trucs de la journée, je suis relaxe, je ne me mets pas en complète difficulté. Mais en même temps, je tiens compte de mon propre mode de fonctionnement qui est « je travaille mieux à la dernière minute ». J'avais déjà préparé des trucs pour l'accompagnement de mes clients et à ce moment-là, je vais le finaliser beaucoup plus rapidement que quand je me force à le faire la semaine avant et où mon esprit m'emmène dans toutes les directions. Et j'aime bien ce que tu dis de trouver ce qui fonctionne pour nous et toujours avec beaucoup de douceur et de bienveillance parce qu'en se auto-flagellant, ça ne marche pas nécessairement bien.
Ça ne marche pas non plus. Effectivement. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse ce petit test de questions. Je me prête au jeu, comme on l'avait préparé un petit peu en off. Tu me poses les questions et je te réponds. Et que nos auditeurs, s'ils le souhaitent, ils peuvent prendre une feuille et un stylo et du coup répondre oui ou non selon les questions que tu poses. Comme ça, ils sauront à la fin si ils sont profil atypique ou en tout cas hypersensible. Donc, on prend l'exemple du test de Hélène Aron. Hein.
Oui, c'est ça. Et tu les notes aussi tes réponses, comme ça je calcule, mais toi aussi, comme ça on est à deux, ça va ?
Ok, je prends juste un truc pour noter, donc désolée si vous entendez des petites clic-clic, mais au moins, hop, on a tout ce qu'il nous faut. C'est parti, donc question 1.
Ok, je suis facilement submergée par des stimuli sensoriels puissants.
Je dirais oui.
Ok. Je suis consciente des subtiles nuances de mon environnement.
Oui.
Je suis très sensible à la douleur.
Non.
J'ai besoin de me retirer pendant les journées frénétiques, soit au lit, soit dans une chambre obscurcie, soit dans tout autre endroit où je suis susceptible d'être tranquille et libérée de toute stimulation.
Oui.
Je suis particulièrement sensible aux effets de la caféine.
Oui.
Je suis facilement accablée par des lumières violentes, des odeurs fortes, des tissus grossiers ou des sirènes proches.
Oui, complètement. Alors là, fois mille.
C'est les hyper-excitabilités. Hein. J'ai une vie intérieure riche et complexe.
Oui.
Le bruit me dérange.
Oui.
Les arts et la musique suscitent en moi une émotion profonde.
Oui.
Mon système nerveux est parfois si perturbé que je dois m'isoler.
Oui.
L'humeur des autres me touche.
Oui.
Je suis consciencieux.
Oui.
Je sursaute facilement.
Oui.
Lorsque les autres se sentent mal à l'aise dans leur environnement matériel, je sens en général ce que je dois faire pour les soulager, par exemple changer l'éclairage, proposer d'autres sièges.
Oui.
Je perds les pédales lorsqu'on essaye de me faire faire trop de choses à la fois.
On n'a pas le droit de dire oui et non, enfin, ça dépend de la situation, mais je vais dire oui parce que ça arrive quand même. Mm-hmm.
J'essaye vraiment d'éviter de commettre des erreurs ou des oublis.
Oui.
Je fais en sorte d'éviter les films et les émissions qui contiennent des scènes de violence.
Oui.
Je m'énerve lorsque beaucoup de choses se passent autour de moi.
Bah, énerver, c'est fort comme mot, mais ça peut agacer. Donc on va dire oui.
La faim provoque en moi une forte réaction et perturbe ma concentration et mon humeur.
Non.
T'as dit non, hein ?
J'ai dit non, oui.
On fait la dernière ligne droite. Les changements qui se produisent dans ma vie m'ébranlent.
Oui.
Je remarque et j'apprécie les parfums et les goûts délicats, les bruits doux, les subtiles œuvres d'art.
Oui.
Je trouve désagréable d'avoir beaucoup de choses à faire en même temps.
Non.
Lorsque je dois rivaliser avec d'autres ou lorsque l'on m'observe pendant que je travaille, je perds mon sang-froid et j'obtiens un résultat bien pire que lorsqu'on me laisse tranquille.
Ouais, je déteste la compétition.
Pareil. Je suis gênée par les stimuli intenses comme les bruits forts ou les scènes chaotiques.
Oui, bah du coup, ça ressemble à une des questions du début, mais... Mmh.
J'accorde une grande importance à l'organisation de ma vie afin d'éviter les situations bouleversantes ou accablantes.
Alors, on travaille au lâcher prise et à la notion de contrôle, mais il y a eu un moment où j'étais très très dans le contrôle. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais on va dire oui parce que c'est important de... Enfin, ouais, c'est quand même son importance d'organiser.
Mmh. Lorsque j'étais enfant, mes parents ou mes enseignants semblaient me considérer comme sensible ou timide.
Pas timide, mais sensible, oui. Mmh.
T'arrives à combien?
J'ai 3 non seulement.
Ouais. Oui, moi j'avais compté 23 oui. Donc on vient de parcourir maintenant 26 propositions. Et dans son test, Elena Ron dit si vous avez plus de 14 réponses positives, vous êtes probablement hypersensible. Mais elle prend aussi beaucoup de précautions en disant qu'il n'y a aucun test psychologique qui est aussi précis pour qu'on puisse baser sa vie là-dessus. Et que même s'il y en a moins, mais qu'on les sent très très fort pour nous, c'est possible qu'on le soit aussi. Donc moi j'invite à beaucoup de prudence avec ça, mais ça peut déjà donner un peu d'indicateurs. Sur son site, il y a aussi un test qu'on peut faire par rapport à ses enfants.
Répondant, ça peut être intéressant. Alors,
à leur place.
On mettra le lien du coup du site d'Elena Ron dans les notes de cet épisode. C'est en anglais, donc.
Oui, et je peux te faire parvenir aussi si vous me laissez l'adresse, je peux vous envoyer la traduction en français.
Ok, parfait. Bah, super, on fera ça alors. Eh bien, super. Ben, merci pour ce petit interlude de questions.
Merci de t'être prêtée au jeu.
C'est un petit peu intime, mais ce n'est pas grave. Je trouve ça sympa qu'on le partage tous ensemble. Et puis, nos auditeurs, si vous faites le test et que vous notez vos réponses, n'hésitez pas à nous les partager aussi en message privé sur les réseaux. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger tout ça avec vous. Isabelle, je vois que ça fait 55 minutes qu'on parle. C'est pas que je m'ennuie avec toi, je suis je bois tes paroles, mais j'aimerais passer à la phase de quelques conseils justement que tu peux donner aux personnes qui sont potentiellement profil atypique, haut potentiel ou hypersensible. D'ailleurs, on l'a pas précisé, mais tu me disais en off que les personnes haut potentiel sont souvent hypersensibles, que ça se vérifie moins dans l'autre sens. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ça avant de passer à quelques conseils que tu pourrais donner à ces personnes pour se sentir mieux dans leur travail et dans leur quotidien?
Oui, mais donc du coup, ça a à voir avec les statistiques et les proportions dans la population. Comme je disais tout à l'heure, on estime à 15 à 20% le nombre de personnes hypersensibles. Pour le haut potentiel intellectuel, en fait, ça a à voir avec les résultats au test de QI qu'on positionne sur la courbe de Gauss, qui est la courbe normale. Et en fait, on considère généralement, voilà, ça peut encore varier d'un pays à l'autre, mais qu'une personne a un haut potentiel intellectuel quand elle a un résultat au test de QI qui dépasse 130. Et c'est là qu'on arrive qu'à 2,5% de la population. Si on considère que c'est plus haut que 125, là, on arrive à 4,8% de la population. Donc, c'est un petit peu plus large, mais on est loin des 20%. Une petite précaution supplémentaire, parce que ça fait aussi controverse dans le milieu des spécialistes. Moi, Fabrice Michaud, qui m'a formée, il fait la distinction entre HPI, haut potentiel intellectuel, et HQI, haut quotient intellectuel. Et il dit, l'un n'est pas nécessairement associé à l'autre, au sens où il y a des gens qui sont très performants intellectuellement, mais en fait, ils se sentent aussi 100% dans la norme. Ils n'ont pas de sentiment de décalage, de complexité, de ne pas voir les implicites avec les autres de la même manière. Dans les interactions sociales, en fait, il n'y a pas ce côté de sentiment d'étrangeté ou depuis tout petit de s'être senti différent ou cette impression de ne pas toujours avoir les codes que les personnes à haut potentiel intellectuel ou surdouées ont tout en commun aussi. Et puis, il y a plein de choses qui peuvent influencer les résultats d'un test de QI selon qu'on est stressé, de comment on a réussi à l'école ou pas. En fait, on peut aussi s'auto-saboter et complètement foirer son test de QI. Même pour les femmes, c'est important si elles sont réglées ou pas. Enfin, il y a plein de choses. Donc, si dans les personnes qui nous écoutent, il y en a qui ont fait le test ou qui considèrent de le faire, s'il vous plaît, choisissez un endroit où on considère les choses dans leur globalité, où on peut vraiment vous accueillir en tant que personne et interpréter avec nuance ça.
Oui, complètement. Bah, merci pour ces chiffres en tout cas. Est-ce que tu peux nous donner du coup ces quelques conseils pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans le même cas que nous deux et qui auraient besoin d'un petit appui, en tout cas, des conseils que tu aurais, toi, potentiellement aimé avoir justement pendant ces 22 ans où tu t'es cherchée.
Moi, je crois que le premier conseil que je donnerais, c'est sur la connaissance de soi. Après, chacun va traduire ça à sa sauce. Il y en a pour qui ça va être, et souvent c'est une des phases, c'est de beaucoup lire sur la question pour voir si on se reconnaît ou pas. Donc, c'est une démarche assez intellectuelle, mais qui peut être salvatrice à un certain moment. En tout cas, pour moi, je sais que quand j'étais en formation et que j'ai appris, par exemple, tous les challenges classiques des personnes à haut potentiel au travail, j'ai eu l'impression qu'on déroulait toute l'histoire de ma vie au travail et je me suis dit « Ah, mais il n'y a pas nécessairement un truc qui cloche avec moi si pour la plupart des gens dans cette situation, ben, ils rencontrent aussi fréquemment ces clashs avec la hiérarchie. C'est pas qu'on est déloyal, mais c'est qu'il faut que le manager il soit vraiment et compétent dans la matière et un bon manager. Voilà, on a cette exigence-là vis-à-vis de soi et des autres, et plein d'autres choses comme ça. Donc, je crois que apprendre, ça aide. Aussi, se parler avec douceur, en fait, une forme d'autocompassion, je crois que ça aide aussi. C'est ce discours intérieur qui ne doit pas être trop dur, en fait, vis-à-vis de soi-même. Ça a aussi à voir avec l'acceptation. Et ce que je trouve aussi très puissant pour moi, c'est la connexion avec les autres. Moi, j'en ai besoin de ces connexions très intime, on a tendance à dire que les profils atypiques, ils vont directement jusqu'à l'os ou à la moelle, en fait, dans les relations. Et je crois qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là aussi dans notre rencontre. En fait, on se parle une fois, deux fois, et on parle de sujets hyper intimes. Et il faut aussi peut-être accepter que ça, c'est perturbant pour les autres. Les autres, ils font pas comme ça d'habitude. Et il faut peut-être aussi parfois se mettre le frein et se dire « Ok, là, je suis dans un contexte professionnel, la personne, je l'ai vue depuis deux fois, il ne faut peut-être pas que j'aille gratter trop vite, trop loin, même si moi, je trouve ça génial, parce que ça peut parfois avoir des effets déroutants pour l'autre, ou bien qu'il interprète mal les intentions, a fortiori quand on est une femme dans le milieu du travail, on n'a pas toujours envie non plus de se dire que l'autre en face, il se dit « Ah, mais mince, elle s'intéresse vraiment à moi, peut-être qu'elle me drague, alors qu'en fait, nous, on veut juste savoir à qui on a affaire. »
C'est ça. Ça me fait penser à quelque chose aussi dans le monde professionnel également. C'est, je ne sais pas si toi, ça t'arrive aussi, mais moi, j'ai eu une période là et que je suis encore en train de travailler où je m'impliquais vraiment énormément dans les projets de mes clients. Alors qu'en fait, mon rôle, c'est de les accompagner dans leur communication et pas tout de suite de vouloir imaginer d'aller plus loin, de devenir associé à l'entreprise et de m'impliquer au point que parfois, ça peut être déstabilisant pour la personne parce que c'est potentiellement son business à elle et donc elle a envie de garder son bébé, etc. au même titre que moi, j'ai envie de développer mon entreprise et où je porte vraiment mon entreprise chère dans mon cœur. Et donc du coup, elle a peut-être peur, elle peut avoir peur et donc c'est peut-être ça aussi qui peut la freiner dans cet accompagnement que je peux lui offrir, que pas que je lui pique sa place, mais tu vois, sentir que je suis tellement impliquée que j'ai envie de... Enfin, ça peut faire peur, en fait, à certaines personnes qui ne comprennent pas si on est trop impliqué dans un projet. Et donc, du coup, j'en ai parlé autour de moi à des personnes, bah, des proches, etc., qui me disaient, en fait, t'es pas obligé de montrer à la personne que t'es impliqué au point que tu travailles jusqu'à 1h du mat, comme tu me disais, pour montrer ton implication, que tu mets corps et âme comme si c'était ta boîte. Non, t'es payé pour une mission ou pour un accompagnement. T'es pas obligé de donner 10 fois plus que ce pour quoi t'es payé, en fait, pour montrer ton implication. Montrer son implication, c'est pas... Et moi, en fait, à ce moment-là, je me rendais pas compte que je donnais plus que ce pourquoi on avait signé ce devis ou contractualisé, en fait. Je me disais, bah non, en fait, c'est normal, tout le monde fait ça. Bah non, en fait, pas tout le monde fait ça. Au contraire. Et c'est ça qui peut aussi faire peur aux personnes qui le perçoivent.
Il y a des questions de curseur, en fait. Et ça vaut dans l'implication, en fait, où on peut se dire de soi-même, bah non, mais c'est juste normal que je m'implique autant. Tout le monde fait ça, mais en fait, non, tout le monde ne fait pas ça. Puis on n'a pas toujours non plus conscience que quand on travaille et qu'on s'y met à fond, parfois, on produit aussi beaucoup en peu de temps, ce qui parfois crée des malaises aussi dans une équipe, parce que si en 2 jours, moi, je produis la même chose que ce que d'autres mettent 1 semaine...
Ouais. On n'a pas les mêmes capacités aussi, et donc il faut être en accord avec ça, de ne pas attendre autant des gens que ce que nous, on est en capacité de faire. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'on est forcément plus productif ou qu'on produit plus en moins de temps, etc. Mais typiquement, si on prend un stagiaire ou un alternant dans une entreprise, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il produise la même chose que quelqu'un qui est senior. Et ben, c'est exactement la même chose dans son quotidien, finalement. Désolée, je t'ai coupé.
Oui, non, et il y a quelque chose qui me fait vachement penser au coaching aussi, et moi je l'ai vécu en entreprise, c'est que j'étais tellement convaincue et sûre, et c'est pas tellement étonnant, parce qu'en fait, si on a un tamis de perception méga large, méga transversale, on a déjà processé, méga processé la question, la problématique dans tous les sens, parfois en plus on a une intuition forte que c'est ça la solution, on ne sait pas toujours l'expliquer rationnellement aux gens, ou parfois on a justement les arguments, mais en fait, quand on déroule les arguments, c'est comme une mitraille, on va mitrailler la personne, donc on les accule dans un coin sans le faire exprès, au point qu'ils ne sentent peut-être plus de voie d'échappatoire, si ce n'est de pouf, rejeter la personne. Et donc, parfois, c'est en faisant un pas en arrière, en disant, bah, écoute, moi, d'après ce que j'ai vu, analysé, compris, ça me semble la meilleure solution, mais au final, tu fais comme tu veux. Limite, moi, je m'en fous. Moi, ça, j'ai vécu.
Alors qu'on s'en fout pas du tout, au fond de nous.
Et bien, ça donne plus d'espace pour la personne pour suivre nos conseils. Exactement. C'est une sorte de paradoxe. C'est comme quand le coach, il dit, oui, bah, peut-être on va devoir arrêter le coaching, que le coaché qui n'était pas impliqué, il revient et il fait, oui, mais non, quand même. Oui, je vais faire mes tâches et puis ça va aller. Je vais quand même trouver une date pour se revoir. Mmh. Et donc, ça, c'est danser avec les autres.
C'est un peu le fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et pareil, quand on peut aussi lier ça à la PNL. J'en parlais justement cette semaine avec une de mes clientes qui me disait, en fait, si tu proposes, par exemple, un contenu où tu vas dire « ne faites pas ci », bah, les personnes vont retenir le mot « si ». Enfin, le si. Et donc, du coup, elles vont retenir le sens inverse de ce que vous allez leur proposer. Alors que si vous le tournez différemment, avec bienveillance, avec le petit émaillage bonbon chocolat que vous pouvez, et ben, en fait, la personne va le percevoir de la bonne manière, quoi. Donc, c'est un petit peu tout ça. Et apprendre à... Tu disais apprendre à se connaître pour pouvoir mieux partager avec les autres et donc apprendre à mieux les connaître aussi, quoi, et à rentrer plus facilement en interaction avec eux. Mais j'ai l'impression que c'est aussi ça qui caractérise les personnes hypersensibles, à haut potentiel, etc., et atypiques, c'est d'avoir parfois du mal à rentrer en contact avec les autres et à s'intégrer plus facilement, ou etc., quoi.
Oui, c'est vrai comme il y a ce sentiment parfois de décalage, après ça se joue pour chacun différemment, mais il y en a aussi plein qui ne supportent pas les petites papotes de tous les jours, par exemple à la machine à café, là, ce qu'on appelle en anglais les small talk, et tu t'appelles talk on the moon, donc c'est intéressant. Il y en a pour qui ça fait aucun sens, en fait, mais ils se rendent bien compte que quand on a un collègue qui ne vient jamais parler, ben en fait, ça a un impact sur la relation et le social. Il y a des choses comme ça où l'intégration dans un groupe, ça va être différent pour chacun, mais souvent une privilégiée quelques connaissances, mais avec des relations très profondes que plein de relations superficielles.
Isabelle, est-ce que il y a quelque chose que tu voulais nous partager qu'on n'a pas abordé pendant cette heure de discussion parce que peut-être que je ne t'ai pas posé la question. Déjà pour les conseils, je ne sais pas si tu as terminé ou pas, si tu avais d'autres idées. Et est-ce qu'il y a des choses que tu voulais nous partager en plus que tu n'as pas eu le temps de partager?
Je pense qu'on a déjà brassé pas mal de choses. Peut-être partager une opportunité en fait pour les auditeurs. On a fait ensemble le test d'hypersensibilité d'Hélène Aron. Et donc si vous avez envie de venir parler de vos résultats, que vous avez découvert des choses ou que ça vient vous challenger d'une manière ou d'une autre, on peut peut-être mettre le lien vers l'appel de découverte. Pour que les personnes à qui ça parle qu'on puisse en discuter et je lance aussi au mois de janvier, je parlais des groupes de femmes, donc ce sera un mastermind de femmes hypersensibles et rayonnantes et là c'est vraiment l'idée justement de cette sororité, d'apprendre à explorer ensemble les différentes facettes de cette hypersensibilité et ou du haut potentiel intellectuel, en fait c'est ouvert aux deux, ensemble, en voyant comment ça résonne, un peu comme nous dans ce podcast, l'une et l'autre, parce que ces effets de miroir sont très puissants, puis parfois c'est plus facile d'amener à l'autre de la bienveillance que de se l'amener à soi-même. Mais si moi je te l'amène à toi, puis toi tu me l'amènes à moi, on est en train de construire et d'apprendre quelque chose. Et c'est là où le groupe est magique, quoi. Et puis ça vient aussi nourrir ce sentiment de connexion plus. Donc je serais ravie aussi de te donner le lien.
De nous retrouver.
Oui, et de te retrouver.
Pendant ce mastermind. Et comment ça va se passer? C'est juste une seule session ou c'est un suivi? Il y a combien de sessions?
Ça va être un programme sur 3 mois où on va se voir environ tous les 15 jours. Donc, il y aura en tout 6 séances plus 2 bonus. Donc, ça fera 8. Je dis 8, pas de la même manière que les Français. Là, Et il y aura aussi un groupe d'échange sur Telegram entre les participants où elles seront amenées à réaliser certaines tâches et puis à les partager là. Et ça peut être un lieu assez vivant et soutenant pour se sentir connectées les unes aux autres aussi en dehors et où moi je serai présente pour animer. Moi j'ai eu la chance de vivre ça en lien avec un programme que j'ai fait sur le rapport à l'argent en début d'année et ça m'apporte beaucoup. Du coup j'avais envie de proposer ça aussi aux personnes que j'accompagne.
Super, on remettra tous les liens, c'était la dernière question que j'allais te poser, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc je remettrai les liens pour trouver sur LinkedIn, sur Instagram, on partagera de toute façon cet épisode sur les différents réseaux et dans les notes de cet épisode je mettrai tous les liens dont on a discuté là pendant notre échange. Isabelle, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu voudrais terminer cet épisode? Alors parfois je parle de citations, de quelque chose qui t'a inspiré pendant l'épisode. D'une dédicace si tu as envie. Est-ce que tu as quelque chose sur lequel tu as envie de terminer notre échange?
Oui, en fait j'avais envie de parler de ce que Brené Brown appelle le vulnerability hangover. C'est comme la gueule de bois de vulnérabilité où elle dit « Moi, je me suis une fois mis à nu complètement dans quelque chose. » Je crois que c'était un TED Talk. Et elle disait à une de ses copines « Ouais, je me sens un peu mal, t'imagines ? J'ai parlé de ça devant 500 personnes en vrai. » Et puis sa copine lui dit « Mais tu sais, entre-temps, Brené, c'est pas seulement les 500 personnes qui sont là parce qu'on l'a mis en ligne sur Internet et son talk est devenu viral. » Et donc, du coup, c'était des milliers, voire des millions de personnes qu'elle a touchées. Qu'est-ce que je vais dire? J'espère que ça ne va pas m'arriver, mais je me suis sentie en confiance et c'est un travail d'ajustement, d'alignement, de se réapproprier sa propre histoire. Et donc, du coup, merci de m'avoir tendu le micro, Alexane, pour parler de ça si ouvertement et à une audience que je ne connais pas encore, qui est la tienne, mais que j'imagine très bienveillante. Donc, voilà.
Bah, merci à toi pour ta confiance parce que c'est vraiment le maître mot de ce podcast aussi. C'est que on se sente comme dans une safe place. J'aime beaucoup ce mot et je l'implémente un petit peu partout. Et donc, du coup, je suis ravie que ça ait résonné pour toi en tout cas aujourd'hui. Et j'aime beaucoup ce dont tu viens de parler, dont on avait parlé aussi en off, et donc je suis contente que tu l'aies ressorti par toi-même parce que ça veut dire aussi beaucoup, ça veut dire que ça t'a guidé pendant cet épisode, donc c'est très
chouette. Oui, et ça me fait penser à quelque chose que je préparais justement sur les critiques. Moi, j'ai été quelqu'un qui a longtemps donné beaucoup, beaucoup d'importance à ce que les autres pensent de moi. Et le fait de se dire que finalement, quand quelqu'un critique quelque chose, ça en dit peut-être davantage sur lui que sur oui. moi, ou si ça vient résonner en moi.
Quelque chose qu'il a à travailler, oui. parce que ça résonne pour lui.
Et si ça résonne en moi, et si ça me blesse vraiment, c'est qu'une partie de moi pense ça de moi aussi. Et à nouveau, rajouter une touche de compassion et de douceur vis-à-vis de soi-même. Quoi. J'ai dit que je me forcerais à célébrer le premier hater. C'est pas encore arrivé, je demande pas à ce que ça arrive, mais... On en est consciente aussi que quand on s'expose au monde, on le fait pour que ça touche des gens, que ça résonne. Moi, ça a été très puissant pour moi de me reconnaître dans l'histoire d'autres, dans d'autres personnes qui acceptaient de parler de ça publiquement au moment où pour moi c'était très, très tabou et très difficile. J'espère que ça pourra apporter ça à d'autres, quoi, parce qu'on est tous une communauté d'êtres humains qui peuvent vibrer et résonner ensemble, en fait.
Ouais, et incarner leur lumière et la partager. Merci beaucoup. Je crois qu'on va terminer sur ça, Isabelle. Merci pour cet échange et puis je te dis à très bientôt.
À bientôt, merci.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcasts et Spotify, à nous contacter en message privé, ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On a hâte de vous retrouver.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.